Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le samedi 28 janvier 2023. Ça veut dire que l'examen du texte sur la réforme des retraites va commencer à l'Assemblée nationale. La commission des affaires sociales va travailler sur ce texte à partir de lundi. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent concernant ce texte, en tout cas au Parlement. Mardi, grande journée de mobilisation dans la rue. Les syndicats unis espèrent rassembler encore davantage que le 19 janvier. Donc voilà, on entre dans le dur sur cette réforme et on en parle avec le chef adjoint du service politique, Thomas Soulier, notamment cet aspect, qu'est-ce qui pourrait changer dans les prochains jours en commission des affaires sociales pour rééquilibrer le texte comme le souhaitent des députés de la majorité et des députés des Républicains pour voter ce texte. Salut Thomas.
Salut Philippe.
Bon, on fait semblant de te dire salut, mais en fait, on a déjà passé la matinée à travailler ensemble. Ce lundi, oui. Une date qu'on avait notée dans notre agenda depuis plusieurs semaines, arrivée en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificatives sur la sécurité sociale qui concerne donc, qui inclut donc la réforme des retraites. C'est un moment important. Et d'habitude, en fait, on va couvrir de façon parfois assez distante les travaux en commission. En tout cas, on les couvre, mais on en fait rarement état de façon extensive sur nos antennes. Mais là, c'est vraiment un moment important dont on va beaucoup parler. Quel est l'enjeu, en fait, des prochains jours en commission?
C'est le début du combat politique. C'est là où on va étudier durant 3 jours tous les amendements, donc c'est-à-dire toutes les propositions des oppositions, même de la majorité, seront examinées, votées ou rejetées. Et donc ce texte-là, après, qui va arriver dans l'hémicycle de l'Assemblée une semaine plus tard. Il y a 6938 amendements, on va sûrement y revenir. Donc un par un, ils vont tout examiner. Il y aura des débats, il y aura des votes. Et c'est là qu'on va vraiment voir quel est l'état des forces politiques à l'Assemblée. Comment se comportent les Républicains? Est-ce qu'ils sont alliés à la majorité ou plutôt critiques? Est-ce que la NUPES y va fort, très fort, dès le début en commission? Est-ce que la majorité ne répond sur rien ou plutôt tente le dialogue? On va vraiment voir, c'est une sorte de grand entraînement, de première partie, comme pour un concert, en fait, où la première partie, c'est la commission. Et puis le vrai concert, ça sera lundi d'après dans l'hémicycle.
Tu as donné un chiffre important, donc il y a environ 7000 amendements qui ont été déposés. Environ la moitié par la France insoumise. En tout, il y a 6000 amendements de la NUPES, environ.
Ouais, 86% ça vient de la NUPES.
Voilà. Quel enseignement on peut tirer de ce chiffre, d'ailleurs? C'est beaucoup, mais c'est moins que ce qu'on avait imaginé.
C'est 3 fois moins que lors de la précédente réforme des retraites, donc en 2019 et 2020. Ça en dit long sur la stratégie politique de la NUPES. Au mois de septembre-octobre, quand on posait la question à des dirigeants des Insoumis, on leur disait « Vous allez faire quoi, vous faites en janvier ou en décembre à l'Assemblée ?» Ils disaient « Obstruction ». Ils disaient « On va déposer 1000 amendements par député. Nous sommes 150, donc il suffit de faire le calcul. Comme on l'a fait il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, ils avaient déposé 1000 amendements par député, sauf qu'à l'époque, ils étaient beaucoup moins nombreux. Là, changement de stratégie. Pas d'obstruction. Bon, en effet, ça fait beaucoup d'amendements, mais ce n'est pas énorme. C'est examinable, c'est possible dans le délai accordé par l'Assemblée. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils veulent rapidement aller à l'article 7. L'article 7, c'est quoi? Ce sont les fameux 64 ans. Donc, ils veulent aller vite pour rapidement débattre et taper fort sur l'article 7. Ouais. Et puis, parce qu'ils veulent pousser l'exécutif à organiser un vote. Et ils savent que s'ils vont vite, il y aura un vote. Si c'est obstruction, il n'y aura pas de vote. Ils veulent un vote. Et pourquoi ils veulent un vote? Parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et que l'exécutif devra dégainer un 49-3. En gros, c'est un pouce au crime. Ils veulent pousser Elisabeth Borne à dégainer un 49-3.
Donc ça va être donc arrivé en commission des affaires sociales la semaine prochaine. Et ensuite, il y a la séance à partir du 6 février
dans
jusqu'au 17 février. Puisqu'on ne va pas revenir sur cet aspect constitutionnel, l'article 47.1, mais les débats en première lecture ne dépasseront pas le 17 février. On aura l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes. Mais pour rester sur la commission des affaires sociales, dans les 7000 amendements qui ont été déposés, il y a aussi des amendements de la majorité. Mmh. Et notamment, en regardant les amendements, il y a des amendements assez créatifs du MoDem qui essayent de corriger certains certaines zones d'ombre de la réforme, en tout cas certaines critiques qui ont été faites depuis la présentation de la réforme. Il y en a un moment qui est intéressant, par exemple sur un bonus-malus concernant l'index des seniors. C'est-à-dire que le gouvernement dit, certes, on va repousser l'âge légal, certes, il y a beaucoup trop d'entreprises qui se débarrassent, entre guillemets, leurs seniors avant qu'ils ne puissent partir à la retraite. Donc on va exiger des entreprises qu'elles publient un index des seniors, donc pour qu'elles disent publiquement combien de seniors elles ont dans leurs effectifs et de combien de seniors elles se sont débarrassées.
Et tu le gouvernement mieux que l'exécutif et la majorité.
Oui, et pourtant, c'est pas très clair. le gouvernement dit on mettra des sanctions pour les entreprises qui ne publient pas l'index.
Oui.
Mais à ce stade, il n'y a pas de sanctions pour les entreprises sur le choix ou pas de se débarrasser des seniors. Et donc, cet amendement du MoDem propose un système de bonus-malus. Ouais. L'idée, c'est que des entreprises qui garderaient leurs seniors auraient un bonus et les entreprises qui se débarrasseraient leurs seniors auraient un malus. Ouais. Pour l'instant, le gouvernement ne dit pas ce qu'il va faire de cet amendement. Non. Moi, j'avais entendu ces derniers jours que le gouvernement réfléchissait à une mode de sanction financière.
Ce qu'a dit Louis Véran, le porte-parole du gouvernement, toute la semaine, lorsqu'on a vu à la fois lors du débat sur BFM TV, lors de ses déplacements, dans d'autres médias, il dit clairement qu'on va aller vers un mode, a priori, de coercition.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Est-ce que ça va passer par ce bonus-malus ou par un autre système ? Ça, on ne sait pas encore. Les amendements MoDem, il y a d'autres. Il y a aussi la clause de revoyure en 2027 pour est-ce que la réforme fonctionne ou pas et la réajuster.
Le gouvernement est contre, a priori.
Contre. Les Républicains sont pour. On peut voir si ça bouge. Après, c'est intéressant. C'est technique, mais pas tant que ça. Et les Républicains disent, donc clause de revoyure, et ils disent application de la réforme, non pas là,
au 1er septembre,
comme le veut Emmanuel Macron au 1er septembre 2023, mais en janvier 2024. Sauf que ce n'est pas possible. C'est quand on vote un budget de sécurité sociale, il faut qu'il y ait des conséquences
rectificatives.
Ouais. Il faut qu'il y ait des conséquences budgétaires sur l'année en cours, 2023. Là, ça voudrait dire 2024. Donc déjà, ça c'est pas possible.
À moins que la réforme prenne effet, par exemple, le 31 décembre 2023.
Oui, c'est vrai. C'est une bonne astuce que tu communiques à Elisabeth Borne et à Olivier Dussopt. Bref, aujourd'hui, on ne sait pas quels amendements seront retenus ou acceptés. On voit quand même que le MoDem était moins gourmand que prévu.
Oui.
Parce que le MoDem voulait taxer notamment les plus grosses entreprises. Il y avait d'autres amendements qui étaient un peu plus choc. Hein. Et ils l'ont pas pris en place. Ils voulaient aussi passer les 35 heures à 35 heures et demie par semaine.
Ça.
Autant vous dire que ça a été rapidement balayé.
Mais il y a quand même un amendement MoDem qui a attiré mon attention. Donc, il y a eu ce lièvre qui a été levé cette semaine concernant les femmes.
Oui.
Donc Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, a reconnu sur la chaîne parlementaire que, pour reprendre son expression, les femmes étaient un peu pénalisées par cette réforme. En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que comme l'âge légal va passer de 62 à 64 ans, un certain nombre de dispositions qui sont déjà aujourd'hui prévues dans la loi pour les femmes, par exemple 8 trimestres en moins par enfant, pour compenser en fait les effets du congé maternité, etc., eh bien, l'effet de ces mesures qui existent déjà dans la loi va être gommé ou en tout cas limité par le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans.
C'est un fait.
C'est un fait qu'a reconnu Franck Riester de façon très honnête, mais qui a un peu embarrassé ses collègues.
Si peu.
Qu'a contesté la première ministre en séance en disant qu'il y avait d'autres dispositions prévues pour les femmes. Mais je referme cette parenthèse-là. Mais en gros, le MoDem propose dans un amendement une manière de compenser cet aspect-là. En disant, mais est-ce qu'on ne peut pas, en plus, du coup, baisser l'âge légal redemandé aux femmes en fonction du nombre d'enfants ? C'est-à-dire que l'âge légal pour elles serait à 63 années et demie si elles ont un enfant, 63 ans si elles ont deux enfants, 62 ans et demi si elles ont trois enfants, etc. Sur le papier, ça corrige cette erreur qui a été soulevée cette semaine, qui a occupé le débat politique toute la semaine. J'en ai parlé avec Olivier Dussopt, il m'a dit que ça coûte 3 à 4 milliards.
Ouais.
Et en fait, c'est ça la question des prochains jours. Les amendements, ils auront beau être
donc
créatifs.
Ça ruine l'équilibre de la réforme financière.
C'est-à-dire que ce qui a été fixé par le président de la République, la première ministre, et je crois même avoir entendu Bruno Le Maire le dire, ou en tout cas, il l'a pensé très fort, il faut que... Ah oui, il l'a dit sur BFM Business l'autre jour, il faut que ça reste dans le périmètre d'un équilibre budgétaire de la réforme des retraites à l'horizon 2030. Mmh. Et donc, s'ils accordent avec tel ou tel amendement telle ou telle ou correction à la réforme des retraites pour rééquilibrer ou en tout cas pour effacer un certain nombre de critiques qui ont été faites, il faut trouver de l'argent par ailleurs.
En fait, s'il y a trop de concessions et s'il y a trop de chèques réalisés durant les prochaines semaines à l'Assemblée. Un, Emmanuel Macron en tête va dire, non mais attendez, c'est pas ce qu'on s'est dit. Je vous ai dit que l'équilibre doit être respecté, donc respectez-le.
Ouais.
Deuxièmement, les Républicains vont dire, non mais attendez, là ça crée un déficit supplémentaire, donc nous, on l'attache à cela, donc non, on vote plus finalement. Édouard Philippe,
oui.
Le chef de l'orthodoxie budgétaire dans ce pays va dire...
Et patron d'un des trois partis de la majorité.
Et va dire, non mais attendez, ça c'est pas possible. Bruno Le Maire, qui dirige Bercy, lui il est vraiment attaché. Et il paraît qu'en ce moment, quand des députés parlent à Bruno Le Maire, quand ils disent, non mais attends Bruno, sur ce point-là, il faut qu'on fasse une... Il dit, faites ce que vous voulez, mais moi à la fin, je veux pas qu'il y ait déficit supplémentaire. Donc en gros, débrouillez-vous. Mais moi, je ne passe pas. Donc, il y a beaucoup de coûts à prendre aussi si trop de concessions étaient réalisées durant ces semaines-là au Parlement.
Alors, voilà le contexte avec ce qui va se passer dans les prochains jours en commission des affaires sociales.
Ouais.
Et puis, il y a l'état d'esprit des députés de la majorité, notamment des députés Renaissance, qui ne vivent pas leur meilleure vie en ce moment.
Non.
C'est pas facile.
Non, c'est compliqué.
Et d'ailleurs, certains, tu as parlé à un certain nombre d'entre eux. Ouais. Je crois que c'est l'un d'entre eux qui disait que la bataille de l'opinion est déjà perdue.
Ouais, c'est un conseiller du gouvernement qui me disait ceci, qui était plutôt honnête, en disant, voilà, là, au vu du sondage, notre sondage est là pour BFMTV de mercredi soir.
Donc, je rappelle, 72% des Français sont opposés à la réforme des retraites. C'est plus 13 en 15 jours depuis la présentation de la réforme.
Et pire pour eux, 40% des électeurs d'Emmanuel Macron trouvent la réforme injuste. Mmh. 40% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron.
Ouais.
C'est plus 13 points. Donc c'est quand même énorme. Ce sondage était une douche froide en coulisses, dans les coulisses du pouvoir. Et il faut dire qu'à la fois ce conseiller dit cela, un ministre me disait aussi, c'est assez inquiétant, les députés qui viennent sur nos plateaux tous les jours pour faire, je cite, de la pédagogie, en gros n'en peuvent plus, parce qu'ils voient que plus ils parlent, plus les Français sont opposés à la réforme, donc il y a un côté un peu pas très efficace, difficile pour eux sur le terrain, ce n'était pas le cas, mais ça commence à l'être un petit peu, difficile pour eux en plateau, parce qu'ils se font coincer sur des points techniques.
Ceux qui viennent sur BFM TV, ils sont une dizaine à venir régulièrement sur notre antenne depuis 15 jours, ressortent parfois un peu secoués et ont l'impression que c'est un peu dur, parce que quand ils sont face à un représentant de la CGT ou un représentant du Rassemblement National, de la NUPES ou LR, ou face tout simplement aux questions des journalistes de BFM TV, ils ressortent parfois en disant « c'est dur ».
L'autre fois, j'étais avec un député de la majorité en plateau, je lui ai posé une question assez technique. Mais c'est un point important, c'est sur les carrières longues, etc.
Ouais.
Il ressort, on discute, et il me dit vous nous avez, vous m'avez bien coincé. Ça fait deux fois que je me fais coincer sur ce point-là. Je vais faire un texte du SOPT. Donc au fur et à mesure aussi de ce travail de pédagogie, ils veulent avoir des éléments, et ces 10-là dont tu parles sont devenus des spécialistes. De la réforme.
Certains s'améliorent dans les arguments et de la manière dont ils répondent aux questions.
À force de texto à Olivier Dussopt.
Non mais c'est vrai, parce que ça se passe comme ça. Certains députés, alors certains d'entre eux ont l'habitude des plateaux télé et des studios radio de façon générale, et sont assez aguerris, mais même les plus aguerris d'entre eux, je les ai vus à certains moments arriver en plateau là, ces deux dernières semaines avec des fiches bachotant, ayant peur d'avoir une question à laquelle ils n'auraient pas de réponse.
C'est une réforme très très technique.
Oui.
Et il faut tout connaître, etc. Olivier Dussopt la connaît parfaitement, mais ils sont peu au gouvernement, dans la majorité, à la connaître aussi bien.
Disons qu'on va dire les choses comme ça. Les ministres ne se pressent pas pour venir défendre cette réforme auprès des Français. On l'a proposé à un certain nombre de ministres. Mmh. Olivier Dussopt l'a fait. Mais la plupart des autres, quasiment tous les autres, ne sont pas tout à fait chauds à l'idée d'être confrontés à des Français qui leur présentent leur cas précis.
Olivier Dussopt l'a fait. Olivier Véran aussi fait beaucoup de médias. Gabriel Attal a envie aussi d'exister sur cette réforme-là. Il considère qu'il y a des choses à faire pour lui. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui n'ont pas envie de prendre des coups, parce qu'il n'y a que des coups à prendre, et deux qui n'ont pas l'autorisation de venir. Parce qu'à part 5-6 ministres, les autres, on leur a dit « vous ne parlez pas des retraites ». Sur plateau télévision, ce qui crée beaucoup de frustration chez eux parce qu'ils n'ont même pas l'occasion de parler de leur sujet à eux. Parce que s'ils viennent nous voir parler de leur sujet, évidemment qu'ils vont avoir une question sur les retraites. Et c'est comme ça que Franck Riester s'est fait en quelque sorte piégé, pas piégé par LCP, mais piégé par le contexte de venir parler d'autre chose. Et évidemment qu'on a parlé des retraites et que la maladresse politique a coûté cher à lui, à l'exécutif et à la majorité. Ça fait beaucoup de mal.
on en revient finalement au sujet de départ, c'est-à-dire que si la bataille de l'opinion est déjà perdue, comme te disait cette source gouvernementale, si la bataille de l'opinion est déjà perdue, si au fond ils savent que jamais ils n'arriveront à convaincre une majorité de Français que cette réforme est juste, que cette réforme est nécessaire, etc., la bataille, ça n'est plus dans l'opinion.
Ouais.
C'est la bataille, elle est d'autant plus au Parlement.
Ouais.
Et donc, comment faire en sorte.
Il se console avec l'Assemblée.
Voilà. Comment faire en sorte de trouver une majorité au Parlement quand clairement une majorité du pays, et au-delà de 70% selon plusieurs sondages, est clairement opposée à cette réforme. Et donc ça passe par les Républicains. Ouais. On en parlait dans l'épisode précédent avec Alexis Cuvillier. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. On parlait spécifiquement des Républicains. Mais il peut y avoir une surprise. Et je pense notamment à ce que disait Marine Le Pen en fin de semaine, a été en déplacement dans le Pas-de-Calais.
Mmh.
Marine Le Pen dit « Attention, le vote n'est pas joué. Il y a une incertitude. Il est possible, malgré... Les rapprochements entre Éric Ciotti et Elisabeth Borne sur la réforme, puisque c'est notamment en discutant avec les Républicains que Elisabeth Borne a convaincu le président de la République de renoncer aux 65 ans et de revenir à 64 ans et une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Malgré ces rapprochements Borne-Ciotti, il y a encore un doute sur le fait qu'il y ait une majorité dans quelques semaines, à l'Assemblée nationale, pour voter ce texte.
Et le même Alexis Cuvillier, l'excellent Alexis Cuvillier, a enquêté au sein du groupe LR. Ils sont 62 députés. Ouais. De savoir, on en est où? Alors, qui va voter quoi? Selon l'enquête d'Alexis, il y aurait 25 à 30 députés qui disent aujourd'hui « Oui, on va voter pour ». 10 à 15 qui veulent des concessions, qui veulent des améliorations, aujourd'hui disent « En l'étant, on ne voterait pas, mais attendons ». Ce qui va se passer, 5-6 qui sont très contre et 10 à 15 qui ne veulent pas se prononcer, qui n'ont pas encore décidé. Donc là, s'il y a seulement 25 à 30 députés à la fin qui votent pour, cette réforme ne passe pas. Et il faut 289 voix en clair à l'Assemblée pour qu'un texte passe. C'est un peu compliqué que ça, mais je simplifie. Il y a 250 députés Renaissance, enfin la majorité, pardon. Certains ne vont pas tous voter pour, peut-être 10 en moins, nous verrons. Donc 240 plus 30, ça fait seulement 270. Il en manque encore 20. Donc là, c'est ric-rac, ça va être très, très dur. Et si ça ne passe pas, il se passe quoi? Bon, déjà, ils vont le savoir avant. Ils ne vont pas prendre le risque de soumettre le texte au vote s'ils savent que ça va capoter. Ça veut dire 49-3. Et là, Elisabeth Borne ne veut surtout pas dégainer un 49-3 sur son texte aussi contesté, aussi clivant. Ça serait rajouter du bordel au bordel, quoi, en clair.
Mais c'est une possibilité.
Eh bien, bien sûr. Ils vont devoir le faire.
Et on ne peut pas être sur cette hypothèse.
Il ne faut pas l'exclure.
Avec des conséquences politiques
très lourdes.
Très lourdes. Bon, on aura l'occasion de parler de tout ça. Merci,
je crois,
Thomas.
On va en parler un petit peu dans
oui,
la prochaine semaine.
Exactement. Merci, Thomas.
Salut.
Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dans les prochains jours.